Salut les boss, c'est Stéphane. Alors, dans le dernier épisode, je vous avais parlé assez longuement des CBDC, c'est-à-dire des crypto-monnaies d'État, qu'on appelle aussi les crypto-monnaies de banque centrale. Et aujourd'hui, on va rester sur ce même sujet. Et donc, cet épisode numéro 19 sera un peu la suite de l'épisode précédent. Comme je vous l'avais dit, c'est un sujet compliqué, mais au final, je pense que c'est hyper important de pouvoir en parler librement. Donc on va faire un peu de prospective et on va essayer de continuer à réfléchir ensemble là-dessus. On sait de toute façon qu'on arrive sur un moment charnière de l'histoire et que très probablement dans quelques années ou même peut-être dans quelques mois, on va avoir le choix entre deux monnaies, entre deux alternatives et au final entre deux types de sociétés très différentes l'une de l'autre. On sait de façon quasi certaine que les États vont vouloir imposer à la population leur CBDC. Mais on sait aussi que face à cela, il existe une alternative qui s'appelle le Bitcoin. Donc il va falloir choisir entre deux mondes extrêmement différents l'un de l'autre. Et je pense qu'on a devant nous trois scénarios possibles. On a tout d'abord le scénario optimiste, de mon point de vue, dans lequel le Bitcoin s'impose. Ensuite, on a le scénario pessimiste, dans lequel les CBDC s'imposent. Et puis on a le scénario intermédiaire, disons peut-être le plus réaliste, dans lequel les deux systèmes cohabitent ensemble, au moins pour un certain temps. Avant de démarrer, j'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier, donc faites bien vos propres recherches par vous-même. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec le scénario optimiste. Ce scénario optimiste, il est possible. Je vous donne un premier exemple. Sur la journée du 30 avril 2023, il y a eu plus de 568 000 transactions via le réseau Bitcoin dans le monde en une seule journée. C'est un record. Donc on voit que le nombre de transactions Bitcoin augmente. Il y a de plus en plus de gens dans le monde qui adoptent le Bitcoin et ça, c'est super positif. Dans ce scénario optimiste, le Bitcoin a plus de 10 ans d'avance sur les CBDC. Ça, c'est un fait. Donc d'une certaine façon, on va dire qu'il a pris énormément d'avance et qu'il est donc peut-être devenu irrattrapable. On va dire qu'il ne peut plus être copié ou dupliqué par une banque centrale. Et donc, dans cette hypothèse, le Bitcoin continue à émerger et devient progressivement une nouvelle monnaie mondiale. Et finalement, il s'impose de lui-même comme le nouveau standard et finit par remplacer le dollar. Dans ce scénario optimiste, les partis politiques de gauche et de droite n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la question des CBDC. Les pays au sein de l'UE n'arrivent pas non plus à se mettre d'accord. Et donc, grâce à cette discorde politique, ça patine, on gagne du temps, ça permet de repousser la mise en place des CBDC, et donc on minimise les dégâts, entre guillemets. Pendant que dans le même temps, le vieux système continue, lui, de son côté, à se fissurer tout seul. Ce scénario, il est possible parce que les gouvernements ont certes énormément de moyens, mais ce sont aussi de gros dinosaures lent à bouger avec de l'inertie bureaucratique et avec aussi de l'incompétence qu'il ne faut pas sous-estimer. Et même si l'on prenait le scénario le plus optimiste qui soit, on aurait carrément un gouvernement qui ferait voter une interdiction des CBDC. C'est ce qui s'est passé en Floride avec le sénateur Ron DeSantis, qui lui s'est déjà positionné clairement sur la question et il a expliqué qu'il s'opposait aux CBDC dans son état. Je suis habituellement le premier à taper sur les politiciens, mais il y a quand même une source d'espoir avec certains politiciens qui sont au-dessus du lot et qui commencent à se positionner contre les CBDC, en particulier aux États-Unis. Vous avez Ron DeSantis, je viens de le dire. Vous avez aussi Ted Cruz, Ron Paul chez les Républicains, chez les Démocrates. Vous avez Robert Kennedy. Et globalement, ces quatre hommes politiques ont été plutôt irréprochable pendant la crise du Covid. Donc si aux prochaines élections présidentielles américaines, les Américains élisent un DeSantis ou un Kennedy, par exemple, on se rapprochera d'un scénario optimiste, ou du moins, on s'éloignera un peu du scénario pessimiste. Donc c'est vraiment important que les électeurs américains renvoient vite Biden dans une maison de retraite ou dans un hospice. Et c'est vraiment important qu'ils fassent le bon choix aux prochaines élections. Ensuite, on a aussi d'autres raisons d'espérer. Prenons l'exemple de ce qui s'est déjà produit au Nigeria l'année dernière. Dans ce pays, le gouvernement a voulu interdire les cryptos et le Bitcoin et il a essayé d'imposer sa CBDC officielle. Et savez-vous ce qui s'est passé ? eh bien, l'utilisation des cryptos et du Bitcoin ont explosé suite à cette décision, à tel point que l'État a dû faire marche arrière et a réautorisé l'utilisation des cryptos et du Bitcoin. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les pays du Sud, les gens ont un besoin quasiment vital de se protéger de l'inflation parce que leur monnaie nationale est généralement très faible et elle se dévalue extrêmement vite. Donc cette interdiction du Bitcoin a échoué parce que finalement interdire le Bitcoin, ça serait un peu comme interdire la drogue. Vous savez bien que le cannabis est interdit légalement en France, mais ça n'empêche pas des millions de personnes dans la pratique d'en acheter et d'en consommer très régulièrement. Donc bien évidemment, l'interdiction de la drogue n'a pas fait disparaître la drogue parce que c'est le marché qui fait loi. Et c'est vrai que la question de l'interdiction du Bitcoin fait peur à beaucoup de gens, ça freine encore certains investisseurs, mais en vérité, même si l'Europe et les États-Unis finissaient par interdire le Bitcoin, il y aurait aussitôt un Bitcoin numéro 2 qui sortirait de nulle part et qui prendrait le relais, et ainsi de suite. Si le Bitcoin numéro 2 était interdit, le numéro 3 prendrait le relais, etc. C'est inarrêtable parce que ça répond à un vrai besoin et parce que la technologie aujourd'hui le permet, tout simplement. Et finalement, c'est vrai qu'à moins de couper l'internet et l'électricité partout, le Bitcoin est inarrêtable. Mais malgré tout, imaginons tout de même que le Bitcoin soit interdit un jour. Outre le fait que ce soit très difficilement réalisable, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne résoudrait absolument rien. Ça ne diminuerait pas les déficits et ça ne ferait pas revenir la croissance. Donc c'est même pas la question. Actuellement, on en a déjà parlé ensemble, vous le savez, les économies occidentales sont surendettées, un peu comme une mère célibataire qui dépense plus qu'elle ne gagne et qui doit faire des crédits conso pour s'en sortir à la fin du mois. Les hommes politiques le savent, c'est pour ça qu'ils impriment de l'argent et qu'ils faussent tous les prix de l'économie. Mais ce qui compte pour eux, je l'ai déjà dit, c'est de garder sous contrôle notre argent. Et pour que ce système continue à fonctionner, il faut que ces dettes puissent être payées par nous et par nos enfants. Il ne faut pas qu'il y ait d'échappatoire. C'est comme ça que ça marche. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que la dette est un outil nécessaire dans une société complexe comme la nôtre, mais arrive un jour où le montant de la dette est devenu délirant. Arrive un jour où le mur de la dette est trop haut, et à ce moment-là, il faut basculer vers un nouveau système. Voilà, ça se produit parfois dans l'histoire. On a eu les accords de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, on a eu la fin de la convertibilité du dollar en or en 1971. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le dollar est devenu tout puissant. Jusqu'alors, le dollar était indexé sur l'or, et à partir de cette date, donc, le cours du dollar a cessé d'être indexé sur l'or. Donc les États-Unis ont pu imprimer beaucoup plus d'argent qu'avant, autant qu'ils le voulaient en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez bien ce qui se passe en France, la dernière fois que le budget français était à l'équilibre, c'est en 1974. Depuis cette date, on est systématiquement en déficit public. Donc c'est probablement pas un hasard. Quand vous laissez filer la monnaie, vous laissez filer les déficits et les comptes publics, c'est à partir de ce moment-là qu'on a assister aussi à la tertiarisation et à la financiarisation de l'économie. C'est à partir de ce moment-là qu'on a cru que l'argent magique, décorrélé de la réalité, décorrélé de l'énergie, décorrélé de l'industrie, allait pouvoir remplacer la véritable création de richesse. Et donc aujourd'hui, on arrive sur un moment historique de ce type. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que si demain, on se retrouvait dans un monde où le Bitcoin devient l'étalon, la monnaie d'échange, la monnaie de réserve, à compter de ce jour-là, les déficits ne seront plus possibles. Les déficits, et donc par extension les guerres, ne peuvent plus avoir lieu pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont plus finançables. Donc voilà pour le premier scénario, maintenant essayons de voir le deuxième scénario. Il serait un scénario dystopique et beaucoup plus pessimiste. Quand le crypto-dollar ou quand la CBDC européenne seront prêtes, c'est-à-dire dans quelques mois, ou dans un ou deux ou trois ans certainement, ils feront ce qu'on appelle un airdrop. On dira aux gens, voilà, vous avez 100 crypto-euros ou 100 euros de cash plus, peu importe le nom qu'ils trouveront. Donc 100 euros vous attendent et 100 euros vous seront offerts si vous téléchargez notre wallet gouvernementale. Et vous imaginez bien que les gens se précipiteront tous immédiatement pour récupérer la carotte qu'on leur aura promis. Et ils installeront tous le wallet en question sur leur téléphone. Avec cette méthode, ça peut aller extrêmement vite. L'autre moyen pour faire accepter les CBDC, c'est de vous dire, bon, on annule ou on réduit toutes les dettes et on prend un nouveau départ avec les CBDC. Alors bon, faut pas trop rêver, faut pas croire au Père Noël. Je crois pas personnellement à l'annulation de toutes les dettes. Bon, mais dans tous les cas, il y aura une campagne marketing de grande ampleur pour persuader les gens que les CBDC sont plus sûres, qu'elles vont vous aider à mieux protéger votre identité numérique, qu'elles vont vous permettre d'accéder plus facilement à des services administratifs. On peut imaginer une appli tout en un avec vos informations d'identité, vos informations de santé et bien sûr votre portefeuille en crypto-euros. Donc tout ça peut arriver très rapidement avec des récompenses et des incitations à la clé, mais ça peut aussi se faire progressivement. Vous savez bien que les banques changent leurs conditions générales d'année en année, donc elles pousseront au fur et à mesure dans cette direction par des petits réglages, des petites obligations, des petites corrections. Et au bout de quelques années, on arrivera au même résultat, c'est-à-dire au résultat voulu. Ensuite, vous aurez donc peut-être votre compte bancaire directement à la Banque Centrale Européenne. Ce serait logique après tout. La BCE ne peut pas faire faillite étant donné que c'est elle qui crée l'argent. Et donc la BCE aurait à partir de là effectivement un regard et un contrôle total sur tous vos achats et sur toutes vos dépenses. Elle pourrait éventuellement prendre un petit pourcentage même sur chaque transaction qui seront effectuées. J'avais donné plein d'exemples dans l'épisode précédent, mais par exemple, si vous voulez acheter trop de carburant sur une période donnée, vos achats d'essence ou de diesel pourront être plafonnés, c'est-à-dire bloqués, tout simplement. Alors vous pourrez peut-être utiliser une voiture électrique, évidemment, mais à condition quand même que vous puissiez vous acheter un véhicule à 60K et à condition qu'on arrive aussi à produire suffisamment d'électricité pour tout le monde d'ici 2035. Ou bien peut-être qu'un patron pourra vous demander votre bilan carbone avant de vous embaucher, par exemple, je ne sais pas. Ou alors peut-être qu'on pourra vous obliger à acheter uniquement chez certains commerçants, parce que eux, ils auront tel ou tel agrément officiel et pas chez les autres. Ou alors peut-être qu'on vous obligera à acheter dans un rayon suffisamment proche de votre domicile. À partir du moment où l'argent devient programmable, on pourra tout faire. Ou encore, on vous dira que votre bilan carbone est trop élevé, que par conséquent, pour l'instant, vous ne pouvez pas acheter de billets d'avion. Pour l'instant, ce type d'interdiction n'est possible que pour des cas exceptionnels, si vous avez des problèmes sérieux avec la justice, et si vous avez par exemple l'obligation de rester sur le territoire national. Mais demain, avec des CBDC qui seront des crypto-monnaies programmables, on pourra facilement automatiser tous ces process et étendre un plus grand nombre de conditions et d'interdictions à toute la population ou à une grosse partie de la population. D'un point de vue technique, ce ne sont ni plus ni moins que ce qu'on appelle des contrats intelligents, etc. Donc, il y aurait plein d'autres applications possibles. Si vous consommez trop de viande, on vous demandera peut-être de réduire votre consommation. Si l'inflation est trop forte sur le prix de la viande ou si votre wallet n'autorise plus les transactions sur ce type de produit, ben c'est pas grave. On vous demandera d'acheter plutôt de la farine d'insectes ou carrément des insectes. On vous expliquera que les insectes contiennent autant de protéines que la viande de bœuf. Mais on vous fera également remarquer que consommer des insectes, ça aide à réduire son empreinte carbone. Et le pire dans tout ça, vous savez quoi? C'est que les gens seront probablement fiers de manger des insectes. Et oui, ils auront l'impression de sauver la planète, alors qu'en fait, ils seront juste des victimes de l'affaiblissement de leur monnaie et juste des victimes d'une propagande officielle. Donc vous voyez bien que derrière les CBDC, on retrouve très vite en embuscade une idéologie, un moyen de faire prendre à la société certaines orientations avec un système même potentiellement de notes et de crédit social où les gouvernements évalueront les citoyens sur certains critères et notamment, comme je l'ai dit, sur leur crédit carbone. On poussera les gens dans une certaine direction et les individus les mieux notés avec un bon indice de confiance exhiberont peut-être leurs notes comme des médailles militaires. Ils seront en haut de cette nouvelle hiérarchie sociale et ils profiteront davantage et de privilèges peut-être qui ne seront accessibles qu'à eux et pas aux autres personnes, en tout cas probablement pas à ceux ayant des notes inférieures. Dans ce scénario pessimiste, vous voyez que l'UE se transforme progressivement en une nouvelle URSS et je pense qu'on en prend probablement dans ce cas pour des décennies de punition, avec à la clé une espèce de technofascisme à la chinoise, mais avec une bureaucratie soviétique en prime et avec la touche woke occidentale contemporaine. Et donc à ce moment-là, on arrive sur un modèle de société où le citoyen ne peut plus faire confiance aux institutions parce que celles-ci sont trop compromises à tous les niveaux. À ce moment-là, on arrive sur une situation où les institutions seront devenues de fait un outil d'impérialisme dirigé contre son propre peuple. Et dans ce scénario pessimiste, personne ne se révolterait, puisque tous les gens seraient placés en état de dépendance vis-à-vis du système, et puis parce que tout simplement, potentiellement, tous vos avoirs pourraient être saisis ou gelés en un clic. Vous voyez, ça donne vraiment envie, hein. Donc voilà pour ce scénario pessimiste. Il est tout à fait possible. On l'a vu pendant le Covid, les gens ont été quand même très majoritairement passifs, endoctrinés et soumis globalement, je trouve. Et c'est clair que pour l'instant, il n'y a pas encore eu de prise de conscience sur le sujet des CBDC, ou alors vraiment au sein d'une toute petite partie de la population. Moi, à titre personnel, j'ai essayé d'expliquer le Bitcoin à des gens autour de moi, et c'est vrai que assez souvent, c'est pas quelque chose qui les intéresse comme ça, spontanément. Ça les laisse assez sceptiques, et ça me surprend toujours, parce que le Bitcoin, c'est de l'argent. Je veux dire, les gens travaillent presque tous au moins 40 heures par semaine pour gagner de l'argent. Donc c'est paradoxal, comment peut-on ne pas s'intéresser à ce sujet alors qu'on y consacre une part considérable de son temps et de sa vie ? Vous pouvez faire le test vous-même. Si vous parlez dans la rue avec monsieur et madame tout le monde, globalement, ils ne voient pas du tout ce qui se dessine. Ils se plaignent souvent de tout ce qui se passe, mais sans comprendre les mécanismes en présence. Ils ne comprennent pas le système bancaire, ils ne comprennent pas le monde financier, ils ne comprennent pas que les banques centrales ont le pouvoir d'imprimer de l'argent à partir de vide, à partir de rien. Ils ne comprennent pas la quantité de dette exponentielle qui a été accumulée sur ces dernières années. Ils ne comprennent pas que nous sommes tous poussés vers ce système des CBDC. Et c'est dommage. Voilà. Et d'ailleurs, soit dit en passant, si vous parlez même avec des élus, ils ne sont pas non plus compétents sur ces questions. Ils n'y comprennent rien, pour l'immense majorité. Pareil si vous avez ce genre de discussion avec votre conseiller bancaire. Il n'est pas au courant de tout ça. Et la plupart du temps, il ne sait même pas ce que sont les CBDC. Il n'en a jamais entendu parler. Donc en fait, effectivement, sans doute que le Bitcoin est difficile à comprendre, parce que ça remet certainement en question beaucoup de principes et beaucoup de croyances. Et finalement, je pense que l'aspect le plus dur dans tout ça, c'est pas l'aspect technique, c'est de réaliser qu'on s'est trompé sur beaucoup de choses. Et pourtant, c'est la première étape, c'est une prise de conscience qui est obligatoire chez tout le monde. Donc voilà, pour résumer ce scénario, c'est ce qui peut arriver si tous les moutons se mettent à suivre le troupeau. C'est le scénario finalement dans lequel les moutons écoutent aveuglément tous ceux qu'on pourrait désigner comme les agents du système. C'est important de préciser qui, parce que je parle souvent d'élite ou d'agents du système. Donc en fait, pour moi, j'entends par là tous ceux qui luttent contre le Bitcoin, des bureaucrates sans nom, sans visage, tous ceux qui ont intérêt à ce que le système actuel dure le plus longtemps possible, les hauts fonctionnaires qui sont bien installés, les gestionnaires de fortune, dont on n'a d'ailleurs plus besoin quand il s'agit d'acheter du Bitcoin, évidemment les grands banquiers, les gros investisseurs institutionnels, et puis évidemment tous les politiciens et tous les experts qui vous ont demandé de vous confiner chez vous en 2020. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous. Ils occupent d'ailleurs actuellement les postes à responsabilité en France, dans l'UE, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc. Il suffit de regarder en arrière sur ces trois dernières années pour comprendre comment l'Allemagne des années 30 a été possible, ou comment le régime communiste a été possible en Europe de l'Est pendant plus de 40 ans. Il faut croire que le mal ne disparaît pas. Malheureusement, il évolue, sans doute, il se réinvente constamment, il change de visage. Bon. Ensuite, on a aussi cette troisième possibilité qui correspond à un scénario intermédiaire où on coupe la poire en deux, en quelque sorte, et dans lequel les deux systèmes cohabitent. Je pense que c'est le scénario d'ailleurs le plus probable, en tous les cas à court terme et à moyen terme, jusqu'à ce que, à plus long terme, on ait un vainqueur définitif. Donc on aurait une partie des citoyens décorrélés partiellement du gouvernement, des citoyens qui refusent l'asservissement total, qui utilisent les CBDC au minimum uniquement lorsqu'ils n'ont pas d'autres solutions, et qui utilisent aussi, quand ils le peuvent, le Bitcoin. Donc en gros, ça pourrait être du style « j'utilise les CBDC pour payer certaines factures parce que je n'ai pas le choix, je ne peux pas faire autrement, mais j'accumule également du Bitcoin parce que je l'utilise comme une monnaie de réserve en tant que monnaie supérieure et je l'utilise aussi pour certaines dépenses. Et puis j'essaie bien sûr de me faire payer par certains clients en Bitcoin et donc quand j'en ai l'occasion, moi-même j'achète certaines choses en Bitcoin également. En gros, on va avoir des lions, des loups, des guerriers qui vont vouloir garder une partie de leur souveraineté. Ce sont des gens qui vont refuser de se retrouver trop captifs dans cette société où, on l'a vu, le gouvernement va essayer de coupler à la fois la CBDC avec l'IA, avec l'identité digitale, la reconnaissance faciale, le profilage Facebook, le suivi de tes achats et de tes dépenses, le suivi de tes déplacements. Enfin voilà, on en a déjà parlé longuement. C'est pas de la science-fiction, je fais une petite parenthèse, vous êtes peut-être au courant, mais il y a quelques jours, l'Assemblée nationale et le Sénat ont quand même validé une loi qui leur permet d'activer les caméras et les micros des téléphones portables à distance. Donc ça serait bien quand même qu'on puisse fixer des limites à tout ça. Et il y aura des gens, donc sans être forcément des hackers professionnels, qui vont vouloir garder un minimum de contrôle sur leur vie et qui décideront eux-mêmes où ils veulent mettre le curseur. Cette cohabitation des deux systèmes concernerait probablement donc une petite partie de la population au début, la partie la plus éveillée de la population ou la partie la plus rebelle, mais au fil du temps, ça pourrait quand même inclure de plus en plus de monde. Ça m'apparaît comme quelque chose de possible. Après tout, faut pas sous-estimer la détermination des gens qui sont capables de dire non. D'ailleurs, c'est pas impossible non plus qu'on ait des gens qui souhaitent carrément revenir aux pièces en argent. Pourquoi pas, on peut tout imaginer. Il y aura sans doute peut-être aussi beaucoup de gens qui utiliseront le Monero. Bref, on peut rester comme ça entre deux eaux pendant un certain temps. Il va falloir faire preuve de souplesse et d'adaptabilité. Et en gros, on pourra avoir le Bitcoin comme monnaie de réserve, comme l'or l'a été longtemps. Et en même temps, on pourrait aussi utiliser le Bitcoin parfois comme une monnaie d'échange sans aucun problème. Mais on utiliserait encore une monnaie locale, en l'occurrence l'euro, le crypto-euro, pour payer nos impôts. Et plus largement, on utiliserait le crypto-euro, l'euro digital, dans la sphère étatisée de l'économie. Et puis effectivement, probablement que pour les échanges internationaux, les pays continueront entre eux à s'échanger du pétrole en dollars ou en yuan. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Moi-même, qui suis à fond pro-Bitcoin, j'ai bien conscience qu'on ne pourra pas non plus convertir tout le monde facilement. Voilà, et puis, je voulais aussi vous signaler quelque chose d'intéressant qu'on a vu sur les derniers jours passés. On a vu que BlackRock est en train de lancer son ETF sur le Bitcoin. Et la SEC, c'est-à-dire le régulateur financier sur les marchés US, va autoriser BlackRock, selon toute vraisemblance, à revendre du Bitcoin sous la forme de cet ETF à ses clients, notamment à ses clients institutionnels. Et ce qui est très frappant, c'est que d'un côté, la SEC déroule le tapis à BlackRock, mais de l'autre côté, dans le même temps, à l'inverse, la SEC attaque Binance et tous les nouveaux acteurs, on va dire, tous les jeunes acteurs, les primo-arrivants du monde de la crypto. Voilà, donc c'est pas le même traitement suivant que vous venez du monde de la crypto ou suivant que vous venez de la finance traditionnelle. Bref, en tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a toujours des différences entre les discours et les actes. Les grandes banques et les grands fonds d'investissement comme BlackRock ont pendant très longtemps dénigré le Bitcoin dans leurs discours, mais au final, le résultat aujourd'hui, c'est que ça y est, ils arrivent, ils rentrent, ils prennent position. BlackRock n'est évidemment pas le seul. On a vu aussi ces dernières semaines que Bank of America et le fonds d'investissement Fidelity achetaient massivement l'action MicroStrategy, qui est l'un des plus gros détenteurs de Bitcoin au monde actuellement. Donc finalement, c'est sans doute qu'ils ont compris que quelque part, c'est pas aussi nul et c'est pas si inintéressant que ça. Je pense que quelque part, les gros acteurs, les grandes banques ont compris. Elles ont compris qu'il fallait peut-être mieux monter dans le train plutôt que de rester sur le quai. Après, juste un dernier mot sur BlackRock. Faut souhaiter que BlackRock ne prenne pas trop de poids non plus dans le Bitcoin, puisque le Bitcoin a été créé pour challenger la finance traditionnelle, pour rompre avec l'ancien système. Il n'a pas été créé pour être dominé à son tour par les mêmes entités, par les mêmes géants, mais au contraire pour s'en libérer. Donc même si ces grosses entités institutionnelles font monter le prix du Bitcoin, il faut absolument que ça reste la monnaie du peuple, la monnaie de tous ceux qui veulent rester libres. Voilà, donc en tous les cas, c'est peut-être ce scénario intermédiaire qui a le plus de chances de se réaliser. Après, sur le long terme, je ne sais pas, c'est probablement un scénario transitoire de quelques années, voire au maximum de quelques décennies, le temps qu'un des deux systèmes le plus efficace s'impose définitivement sur l'autre. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que les CBDC sont l'antithèse du Bitcoin, c'est le jumeau maléfique du Bitcoin, je crois que vous l'avez compris, on en a parlé longuement sur deux épisodes. Si le Bitcoin c'est Spider-Man, les CBDC c'est Venom. Et si le BTC c'est le Dr. Jekyll, la CBDC c'est Mr. Hyde. Donc si tu penses par toi-même, si tu es pour la liberté, tu seras forcément pour le Bitcoin. Par contre, si tu veux un gouvernement tout puissant, qui décide de tout dans nos vies, qui confisque toute la valeur ajoutée produite par ses citoyens, alors tu seras favorable au CBDC, c'est aussi simple que ça. Et c'est pareil à l'échelle des pays, plus un pays est pro-liberté individuelle, plus il est favorable au Bitcoin. Si un pays essaye de t'enfermer dans une CBDC, c'est le contraire, c'est que ce pays a des tendances autoritaires et collectivistes. Donc je pense qu'à ce niveau, c'est clair pour tout le monde, ces deux systèmes sont à l'opposé l'un de l'autre. Le Bitcoin, c'est la séparation des pouvoirs entre l'État et l'argent, tandis que les CBDC, c'est au contraire donner plus de pouvoir sur l'argent à l'État et c'est placer celui-ci au centre de tout. Dieu merci, tous les pays ne vont pas et n'iront pas dans la même direction. On a appris il y a 2 ou 3 mois que le Bhoutan minait du Bitcoin depuis des années. Le Bhoutan, vous savez, c'est ce petit pays situé dans l'Himalaya, pas très loin du Népal. Et a priori, il consacre 5% de son PIB à l'achat de mineurs ASICS. Et il utilise la puissance hydroélectrique des rivières de l'Himalaya pour miner du Bitcoin. Donc voilà, vous me direz que c'est un petit pays, mais bon, c'est quand même encourageant ce genre d'infos. Ce qui est certain aussi, c'est que au moins en Occident, le grand reset monétaire est proche. L'agenda s'accélère, le chaos s'accélère, et c'est un petit peu comme quand les pirates se lancent à l'abordage et coulent leur propre navire. Quand on voit notamment que Biden veut se représenter pour un second mandat, ça ressemble quand même à une espèce de fuite en avant volontaire. Voilà, donc on vit une espèce de course contre la montre entre deux visions du monde qui sont des visions opposées. Et on va devoir choisir entre un Bitcoin qui est incensurable, inviolable et insaisissable, ou alors ce sera une CBDC qui introduit dans son sillage un système de surveillance inédit dans l'histoire. Parce que je pense que la CBDC, comme je vous l'ai expliqué, conservera tous les défauts de l'ancien système, tous les défauts de l'argent fiat, mais en plus amènera avec elle en bonus la surveillance digitale à grande échelle. Ou alors, ça sera cette fameuse troisième voie, une voie hybride, qui marchera avec les deux systèmes en parallèle. C'est peut-être pas l'idéal, mais au moins ça nous laissera un peu de souplesse, un peu d'oxygène et une petite marge de manœuvre. Disons que ce scénario n'est pas le pire. Donc on verra comment ça évolue. Ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, on vous demandera pas votre avis. Vous ne pourrez pas voter contre les CBDC, on vous demandera jamais votre avis de toute façon sur des questions importantes. On vous demandera pas votre avis sur l'identité digitale, sur le passeport vaccinal, sur le zéro carbone, sur l'interdiction des véhicules à essence, etc. Ils ne vous demanderont jamais votre avis parce qu'ils savent que vous pourriez peut-être voter non. Et bien sûr, ces sujets, vous le savez, sont trop importants pour qu'on vous demande votre avis à vous. Évidemment, ça va de soi. Donc, idéalement, il faut en parler pour retarder cette échéance. Il faut, je pense, essayer de se faire entendre. Et puis la meilleure façon de protester, c'est d'acheter du Bitcoin, c'est d'échanger du Bitcoin, parce que face à tout ça, le Bitcoin sera la meilleure alternative. En choisissant le Bitcoin, je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais vous privez de ressources les bureaucrates. Et ça les ennuie beaucoup. C'est la seule option pacifique, et c'est probablement le moyen le plus efficace, sans doute, de faire pencher la balance. Je pense que le pire, ça serait de se comporter comme des gens dépressifs, fatalistes, qui se disent que ça ne sert à rien d'agir. Et le pire, ça serait en fait de se considérer comme déjà battu d'avance. Je pense qu'il faut faire précisément le contraire. D'ailleurs, ça me frappe souvent quand j'entends parler, par exemple, les eurosceptiques, enfin ceux qui vous parlent de Frexit, ceux qui veulent sortir de l'euro. Mais en fait, les gars, sortir de l'euro, au moins partiellement, c'est facile, c'est très simple. Ça peut se faire du jour au lendemain. Il suffit de basculer sur le Bitcoin. En gros, la solution, vous l'avez sous les yeux, donc mettez-vous juste en accord avec vos idées. Donc pour moi, je le redis, le Bitcoin en tant qu'outil de protestation, en tant qu'outil de divorce, c'est beaucoup plus efficace que de manifester dans la rue en tapant sur des casseroles. Pareillement, pour ceux qui veulent partir vivre tout seul dans le Larzac élever des chèvres et vivre en totale autonomie, se retirer du monde, c'est bien. Mais c'est pas non plus très utile, du moins ça n'aura pas d'impact significatif sur la société. C'est pour ça que le mieux est d'agir de façon à la fois individuelle, mais en même temps de façon groupée. C'est aussi d'être partout et nulle part en même temps, et c'est finalement d'utiliser un outil qui ne peut pas être stoppé. Donc essayez, si vous pensez avoir une bonne vision, si vous pensez avoir compris tout ça, essayez d'expliquer tout ça autour de vous. C'est important que tout le monde comprenne les enjeux profonds qu'il y a derrière ces problématiques, qui sont des problématiques quand même complexes. Nous, à notre niveau en tant que citoyens, on a le devoir de dire que les CBDC, c'est de la daube, d'une part, et il faut aussi expliquer aux gens que le Bitcoin, c'est l'antidote en quelque sorte. Voilà, il faut garder de l'espoir. Dans l'histoire et dans toutes les sociétés, il y a toujours certains rapports de force, et plus on est nombreux, plus on peut peser dans le débat. Par exemple, la révolution américaine est née dans des tavernes, et à la base, c'est une impulsion qui part d'un petit nombre d'individus. Et puis, les petits ruisseaux, à la fin, finissent toujours par faire les grandes rivières. Voilà, donc je vais arrêter là-dessus. J'espère que vous avez bien compris avec cet épisode et avec l'épisode précédent qu'aujourd'hui, on a le choix entre d'un côté la prison digitale, le goulag numérique, et de l'autre côté la liberté pour vous et pour vos enfants. Il faut aussi penser à nos enfants, parce que si on bascule du mauvais côté, je pense que malheureusement, on peut en prendre aussi pour pas mal d'années, voire pour des décennies, et franchement, ça risque d'être assez cauchemardesque. Donc merci de m'avoir écouté. Avant de vous laisser, je vous invite comme d'habitude à regarder dans la description de cet épisode. Je vous mets deux liens. Le premier lien, c'est un lien vers Relay App. Ça, c'est une appli qui vous permettra d'acheter très simplement du Bitcoin sans fournir de KYC, donc pas besoin de passeport ni de pièce d'identité. Et le deuxième lien, c'est un lien vers Phoenix Wallet. C'est un wallet qui vous permettra d'échanger des Bitcoins, des Satoshi via le Lightning Network. C'est-à-dire que grosso modo, vous pourrez effectuer des échanges avec des frais quasiment inexistants, et au niveau de la rapidité des transactions, c'est quasi instantané. Donc ce sont deux applis que j'ai testées qui marchent vraiment très bien, c'est nickel, je vous les recommande à nouveau. Et voilà, donc je vous laisse là-dessus. Salut les amis, salut les boss. Merci encore une fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.